Les questions de Sophie. Voici Sophie Stanquet.
Mesdames, Messieurs, bienvenue aux questions de Sophie. Aujourd'hui, la violence envers les femmes, où en sommes-nous? Alors, on a eu tout un automne, Mesdames, Messieurs. On a eu l'affaire Gomeci, où là, ça a déboulé. Les gens ont parlé sur les réseaux. Ça n'a pas arrêté. On a eu une affaire qui n'est toujours pas réglée. Ce qui s'est passé au Parlement à Ottawa, c'est en cours. Et par la suite, on a su qu'elles n'étaient pas protégées, qu'il n'y avait pas de loi qui existait pour les protéger. Ça, c'est au niveau du travail. Et puis, hier, 25 ans, Polytechnique, samedi, 14 jeunes femmes ont perdu la vie. Violence encore. Alors, ce qu'on va voir pendant l'émission, eh bien, on parlera pendant 60 minutes à des spécialistes et ne pas oublier que ce que l'on veut, ce que les femmes veulent, c'est le respect, l'égalité, la solidarité et l'autonomie. Je vais vous donner un numéro de téléphone parce que je tiens, c'est un devoir pour moi de le faire pendant cette émission qui reviendra souvent. Parfois, ces femmes nous écoutent et elles ne savent pas où aller. Elles n'ont pas d'hébergement, elles sont victimes de violences. Et le numéro de téléphone SOS Violence faite aux femmes, 1-800-363-9010. On a eu beaucoup, beaucoup de courriels. Je ne vous oublie pas, je vais vous lire pendant les 60 minutes entre mes invités. Je vous parle du menu d'aujourd'hui. Elles sont tous et toutes extraordinaires dans leur domaine, des spécialistes. Louise Langevin, professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, sera avec nous. On aura aussi Mme Selma Quidry, coordonnatrice d'inclusion pour le Québec, réseau d'action des femmes handicapées du Québec. Et puis, comment surmonter l'agression sexuelle? Michel Saint-Armaud, sexologue, sera avec nous. On parlera aussi d'éducation sexuelle, parce que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Il ne faut pas oublier d'éduquer. Et certains cours, ça a été vraiment disparu. Il semble qu'il y aurait un projet pilote de remettre les cours de sexualité à l'école. Bonne chose, on en parlera avec Richard Cloutier, psychologue, professeur émérite associé à l'école de psychologie de l'Université Laval. Et notre coup de chapeau, Erika Diaz, intervenante psychosociale pour la maison Trève pour elle. Tout ça à notre émission. Alors, vous pouvez nous écrire sur Twitter, vous l'avez fait. Je vais vous en lire quelques-uns au travers l'émission. Carole Tremblay qui dit « On en parle encore et encore, mais fait-on des choses concrètes pour qu'il y ait une fin à cela? J'ai un doute. » Et ensuite, elle répond « Il faudrait régler la violence tout court et cela sous toutes ses formes. Autrement, c'est un coup d'épée. Je pense qu'il faut d'abord prendre conscience de ce que c'est qu'être violent. » La violence est souvent sournoise et pas seulement physique, des mots, des gestes, des façons de faire. Carole Tremblay qui nous écrivait sur Twitter. Et on va tout de suite avec notre première invitée. On met la table avec elle sur le sujet. Louise Langevin, elle est professeure à la faculté de droit de l'Université Laval. Alors, une réaction à ces commentaires, Madame Langevin. Est-ce que justement, il faut s'en occuper? Est-ce qu'on s'en occupe assez de cette violence?
Depuis les 30-35 dernières années, beaucoup d'argent, d'efforts ont été consentis pour sensibiliser la population, pour changer les mentalités, pour une tolérance zéro à l'égard de la violence faite aux femmes. Donc, il y a eu des efforts, mais on se rend bien compte avec les manifestations au cours de l'automne, que ces efforts-là n'ont pas produit les fruits espérés, qu'il reste encore beaucoup de travail à faire.
Oui, parce que, bon, il y a eu cette vague d'aveux des femmes là, qui sont sorties, et d'ailleurs de tous les milieux, notamment en politique et un petit peu partout, le milieu journalistique aussi, où il y a eu des premières pages, des gens qui ont finalement parlé. Mais on se pose la question, pourquoi avoir parlé et pourquoi avoir gardé ça secret?
La violence à l'égard des femmes est caractérisée par ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire les femmes ne portent pas plainte. Je veux vous rappeler que la première étude scientifique au Canada sur la violence faite aux femmes remonte à 1992, donc ça fait pas si longtemps que ça. Les tribunaux se sont quand même ajustés, adaptés pour traiter de manière respectueuse les femmes, pour que les femmes portent plainte. Donc, tout le système, que ce soit les policiers qui reçoivent les plaintes, les procureurs qui vont déposer les accusations, les tribunaux, tout le système judiciaire a quand même été formé, sensibilisé à cette réalité que les femmes n'exagèrent pas nécessairement, que les femmes ne sont pas des menteuses et que les femmes sont agressées par des personnes, elles sont surtout agressées par des personnes qu'elles connaissent dans la sphère privée. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a eu des progrès, mais il semble que les femmes ont encore des réticences à porter plainte et on peut comprendre ces réticences-là qui font en sorte qu'il y a ce chiffre noir que les femmes ne portent pas plainte.
Mais est-ce que vous avez étonné de savoir qu'il n'y avait pas de législation, notamment au Parlement à Ottawa?
Ben, pour ce qui est du travail des députés à Ottawa, à la Chambre des communes, il y a des règles spéciales qui régissent le Parlement. Donc, étonné qu'il n'y ait pas de règles, mais surtout étonné des comportements des députés. À une époque où on dit, bon, les femmes sont partout, elles sont beaucoup moins présentes en politique. Et c'est peut-être, ben, la politique est un des derniers bastions là où les femmes sont très peu présentes. Mais qu'il n'y ait pas de règles, on peut s'en étonner, mais surtout qu'il y ait encore des comportements d'harcèlement à l'égard des femmes. Ça, c'est beaucoup plus dérangeant.
Est-ce qu'on doit revoir notre façon de faire aussi au niveau des policiers? C'est assez difficile, selon certaines victimes, d'aller soit de viol ou encore de violence, d'aller vers un homme quand elles se sont fait violer. On a encore ça, les gens disent que, bon, déjà, c'est difficile de sortir de son omerta, mais la personne qui va les recevoir, c'est un homme qui va aller dans les questions les plus privées, les plus personnelles, et ça, c'est aussi une autre épreuve.
Oui, il y a beaucoup de ressources pour aider ces femmes-là. Donc, je pense à des maisons d'hébergement qui peuvent bien conseiller les femmes. Et dans les corps policiers, il y a des femmes policières qui sont formées pour cette réalité-là et pour recevoir les plaignantes. Donc, il y a quand même des efforts qui ont été faits, il faut le souligner, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas d'efforts à consentir. La preuve, c'est que les femmes ne portent pas encore toujours plainte.
Est-ce qu'on est rendu dans une société où on banalise la violence faite aux femmes?
Évidemment, la violence à l'égard des femmes, elle est partout, si ce n'est que sur les jeux vidéo, au cinéma, si ce n'est que par Internet, avec la pornographie qui est beaucoup plus accessible. Donc, la violence faite aux femmes, elle est banalisée ou acceptée. Mais pourtant, depuis 30 ans, les groupes de femmes demandent tolérance zéro, que la violence à l'égard des femmes est un crime, est une atteinte à leurs droits fondamentaux, et que c'est tolérance zéro. Mais oui, il y a une banalisation, surtout dans une société hypersexualisée, et que cette hypersexualisation se manifeste sur le corps des femmes et des petites filles.
Le rôle de l'État dans tout ça?
Est-ce qu'on se déculpabilise?
Est-ce que l'État dise, bon, ben, je ne veux pas dans ma cour, ou c'est quoi le rôle de l'État?
Ben, le rôle de l'État est important. Bon, d'abord, les États ont des obligations par les conventions internationales qu'elles ont signées. Les États doivent intervenir parce que, et c'est encore le cas dans un certain nombre d'États diront que la violence à l'égard des femmes, celle qui est dans la sphère privée, dans la famille, que c'est privé, que c'est dans la famille et que l'État n'intervient pas dans la famille. Ça a longtemps été au nom du respect de la sphère privée que l'État refusait d'intervenir. Bon, les États ne peuvent plus avancer cet argument. L'État doit intervenir à l'égard de la violence faite aux femmes, que la violence soit dans l'espace public ou dans l'espace privé. Au Canada, notre réalité parce qu'on n'est pas un pays en guerre, là, la violence à l'égard des femmes est une violence à peu près essentiellement privée par des personnes qu'elles connaissent. Donc, des conjoints, des ex-conjoints, des membres de leur famille. Donc, c'est une violence dans l'intime. L'État doit intervenir d'abord en criminalisant. Le Canada a criminalisé depuis 1982 le viol conjugal. Bon. Donc, d'un point de vue criminel, ce sont des infractions. La violence à l'égard des femmes est une infraction. Pardon. Ensuite, l'État doit intervenir dans ses politiques sociales. Au Québec, on a des politiques à l'égard de la violence faite aux femmes, à l'égard des femmes victimes de violences sexuelles. Donc, une politique, ça permet d'encadrer les actions de l'État pour que les actions de l'État soient conséquentes. Donc, c'est important que l'État intervienne par des politiques, par des législations, des politiques à caractère social, mais qu'il y ait aussi de l'argent qui suive ces politiques-là. Les politiques demandent de l'argent pour que les politiques soient respectées. Donc, on pense à toutes les ressources qui sont mises à la disposition des femmes violentées. On peut penser aux maisons d'hébergement, mais pas seulement qu'aux maisons d'hébergement. On peut penser à tout le système de santé où les femmes vont avoir besoin d'aide psychologique, d'aide médicale. Et donc, le rôle de l'État est important, donc, dans les politiques, dans les lois, dans l'investissement de programmes sociaux, mais aussi dans toutes les questions d'éducation. Vous avez parlé tantôt de l'absence de cours à l'éducation sexuelle. Donc, l'État a un rôle important à jouer dans l'éducation. Et pour changer les mentalités aussi, on peut penser aux campagnes de publicité ou de sensibilisation plutôt du gouvernement, les dernières campagnes à l'égard de la violence conjugale faite aux femmes, des campagnes vraiment choc, diffusées aux grandes heures d'écoute pour dire que non, ce n'est pas acceptable de frapper les femmes et les enfants. C'est un crime et c'est tolérance zéro. Aucune femme n'a à accepter ça. Donc, le rôle de l'État est très important. Je voulais aussi ajouter que si la violence faite aux femmes et aux petites filles est banalisée, parce que souvent, dans certains pays, et aussi au Canada, elle est justifiée pour des raisons culturelles, entre guillemets, cette violence qui touche les femmes, on dit que c'est une violence genrée. Les femmes sont victimes de violences parce qu'elles sont des femmes. Et les violences que les femmes subissent sont différentes de celles que subissent les hommes.
Oui,
on ne dit pas que les hommes ne sont pas victimes de violences. Ils sont victimes de violences dans le cadre de guerre, dans l'espace public, aussi dans l'espace privé. Mais les femmes, compte tenu de leur position historique, culturelle, économique, sociale, sont victimes de violences parce qu'elles sont des femmes. Et ce phénomène-là, il est mondial. Il touche toutes les sociétés, toutes les époques et toutes les couches de la société. Donc, toutes les femmes peuvent être, et toutes les petites filles, victimes de cette violence dans la sphère privée.
Qu'en est-il du travail en terminant? Parce que c'est une sphère publique, mais en même temps privée, parce que plusieurs boîtes sont privées. Hein, on ne travaille pas tous pour l'État. Il semble qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il semble que les femmes subissent énormément de violences, que ce soit verbales, que ce soit quelqu'un qui rentre et qui pose ses mains là où il ne doit pas poser ses mains. Et elles ont peur de perdre leur travail, mais c'est le quotidien. Il semble que là, il y a une législation qui n'est pas vraiment là, parce que il y a beaucoup de boîtes où il y a 10 employés, 5 employés, 2 employés, et c'est difficile de vivre ça, parce qu'elles se disent, si je dénonce, ben voilà, je vais perdre mon travail, on va me montrer la porte. Et ça, c'est le quotidien, ça. La violence faite aux femmes au niveau du travail est là.
Oui. Donc là, vous parlez du harcèlement sexuel en milieu de travail. Oui. Le harcèlement sexuel en milieu de travail au Québec est interdit dans la Charte des droits du Québec.
Oui.
Il y a un article précis là-dessus.
Tout à fait.
Beaucoup d'entreprises, mais ce sont de grosses entreprises, ont adopté codes de conduite.
Des grosses entreprises.
Oui, ce qui est acceptable et pas acceptable. Mm-hmm. Et donc, des phénomènes, des comportements d'harcèlement sexuel, ça peut être raciste aussi, mais se présente dans les petits milieux de travail. Et dans ces cas-là, les employés ne sont pas syndiqués, ne peuvent pas être protégés par le syndicat. Mmh. Elles ont peu de recours parce que aller devant le juge, ça demande des moyens financiers.
Exact.
Donc, dans le seul recours qui reste, c'est un recours, une demande de compensation auprès de la CSST comme accident de travail pour du harcèlement psychologique. Parce que le harcèlement sexuel fait partie de la notion plus large mm-hmm. de harcèlement psychologique. Et là, dans ce cas-là, le recours, il est intenté, si on peut dire, contre l'employeur. C'est l'employeur qui sera tenu responsable et c'est l'employeur qui, après qu'on aura fait la preuve de ce qui s'est passé, dans ce cas-là, ce sera l'employeur qui aura à dédommager la victime de harcèlement sexuel au travail qui, dans la plupart des cas, aura déjà quitté son travail.
Oui.
Donc, il y en reste, c'est souvent la victime qui porte... plainte qui va, elle, subir les conséquences. Et le harceleur ne sera pas importuné.
Et il va aller sur le chemin. Elles vont aller sur le chemin du silence, de l'omerta,
oui.
parce que c'est moins lourd, façon de parler. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Mme Langevin. Merci.
Ça m'a fait plaisir, Mme Stanky.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, vous êtes, je suis très, très contente de savoir que vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire. C'est un sujet qui vous parle, qui me parle aussi particulièrement. Guy Crête, sur Twitter, nous dit « Nous ne l'aurons pas, le massacre des femmes se poursuit depuis 25 ans. Contrairement à Marc Lépine, on les tue à petit feu. » C'est quelque chose. Alors, il dit « Le massacre des femmes dure depuis plus de 25 ans. Il ne semble pas... vouloir se terminer. Serge Ouellette qui dit « On a encore tant de chemin à faire ». Dark Jedi dit « Nous en sommes là, politiciens égale au-dessus des lois ». C'est intéressant la question politique aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il semble qu'il y ait vraiment un trou là-dedans, là, au niveau des législations, entre autres. Et puis, la volonté de mettre fin à ces scandales ne me semble pas exister. Donc, on a Ginette Léger qui dit « Pour avoir œuvré dans ce domaine, elle est encore malheureusement bien présente, cette violence. Bonne émission, Sophie. J'ajouterais qu'elle devient même plus violente et prend différentes formes aussi. » Agir et essayer de sauvegarder les organismes qui viennent en aide à ces femmes. Alors, donc voilà, on va tout de suite à notre prochaine invitée. Un sujet très, très chaud, très, très dur aussi, je dirais, la violence envers les femmes handicapées. Qu'est-ce qu'il en est? C'est Mme Selma Goudry, qui est coordonnatrice d'inclusion pour le Québec, Réseau d'action des femmes handicapées du Québec. Bonjour, Mme Goudry.
Oui, bonjour.
Vous
bonjour.
Allez bien?
Oui, ça va, je vous remercie. En fait, je vais juste corriger, c'est le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, en fait.
Du Canada, très bien.
Et collaboratrice pour le Québec.
Ça va, on rajoute le Canada. Alors, merci. Dites-moi, on se doute que les personnes handicapées sont très vulnérables face à la violence. Est-ce qu'il existe des études à ce sujet?
En fait, les études, je vous dirais que ça date depuis quelques années. Hein, les dernières études, c'est depuis 2006 et puis peut-être des mises à jour qui ont été faites dernièrement, mais on peut pas donner des chiffres exacts. Mmh. Disons, voilà le visage clair de la violence faite aux femmes en situation de handicap, surtout. Mm-hmm. Aux personnes handicapées, oui, il y a quand même un nombre assez important, mais il faut toujours préciser que les femmes sont quand même deux fois plus à risque ou violentée que les hommes en situation de handicap ou que les femmes en général. Donc, mais je peux pas vous donner de chiffres exacts vous disant voilà la situation. Malheureusement, ce sont toujours des études faites maison hein, par des organisations ou des organismes œuvrant auprès des femmes ou œuvrant auprès de personnes handicapées. Oui. Donc, c'est juste des focus groupes qu'on prend sur un nombre X. mais des études aussi qualitatives qui ont été faites pour préciser que vraiment les femmes sont deux fois plus, si ce n'est plus, victimes de violences, de toute forme de violence, en fait. Oui.
Alors là, on parle des personnes handicapées, elles sont vulnérables. Comment ça se traduit? Bon, je veux pas de chiffres, bon, parce que les chiffres me parlent pas, mais plutôt les sentiments et les actions. C'est vrai que c'est bien d'avoir des chiffres pour des fois éveiller la conscience sociale, mais là, comment ça se traduit? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous entendez? Dans quel genre de milieu? Est-ce qu'il y a une tranche d'âge particulière? Comment ça se passe, cette violence-là?
Ben, écoutez, moi, je peux vous dire que quand même, là, depuis quelques années, on parle des différentes formes de violence, d'accord? Donc, souvent, on parlait beaucoup de violences conjugales ou des agressions, des abus, mais maintenant, on parle beaucoup plus de différentes formes de violences qui sont quand même vécues par les personnes en situation de handicap et surtout les femmes. On parle de violences conjugales qui est persistante. On avait du mal à parler de cela, disons que c'est pas possible. Là, une femme handicapée ne peut pas vivre de la violence conjugale. Mais oui, ça existe énormément.
Les gens ne le croyaient pas, ça?
Non. C'est impossible. C'est assez tabou. Qui peut quand même violenter ou abuser une femme en situation de handicap? Non, c'est vrai, ça existe. Et les femmes, souvent, ont tendance à ne pas dénoncer. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui arrive même pour les femmes en général, on a de la difficulté à dénoncer. Pourquoi? Parce que l'abuseur ou l'agresseur, souvent, c'est une personne qu'on connaît. C'est une personne qui est proche. Souvent, les femmes se retrouvent dépendantes de leur agresseur. Donc, souvent, c'est assez difficile d'aller dénoncer et de dire « je vis des situations de violence et puis c'est l'homme avec qui je vis qui peut subir ça ». Donc, c'est pas évident. Je peux vous dire aussi de la violence psychologique aussi qu'elles vivent souvent, de la discrimination, des abus. On a tellement vu, puis des personnes, je peux vous nommer des femmes sourdes qui vivent énormément de violences conjugales. C'est quand même une communauté assez fermée, assez petite. Puis ça se vit entre nous. Puis les femmes n'en parlent pas du tout. Puis il y a toujours des enfants qui la vie des enfants qui est en jeu aussi là-dedans. Il y a aussi, comme je dis, une violence systémique qui est souvent, et ça touche peut-être une plus grande proportion des personnes en situation de handicap, pas seulement les femmes, mais les femmes la vivent énormément. Ça peut être aussi au niveau institutionnel. Hein. Je peux vous donner un exemple simple.
Vas-y.
Une femme qui vit, elle a une préposée qui s'occupe d'elle. Ça change tous les jours. Ce n'est jamais la même préposée ou la même personne qui vient l'aider, qui vient écoutez, on vous nettoie. C'est toute votre intimité qu'on approche. Puis là, vous êtes obligé de subir plusieurs mains, souvent différentes personnes qui viennent. Des fois, souvent, des femmes vivent des attouchements, surtout de jeunes femmes vivent des attouchements presque sexuels, même parfois sexuels. Elles ne peuvent même pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il peut très très bien y avoir comment dire ça, des représailles contre elle, parce que si elle se plaint, déjà le système, c'est assez difficile d'avoir des services. Une fois qu'on a des services, ben on s'en plaint pas, on les prend. Puis moi, j'ai déjà eu des appels, des parents qui appellent pour leur jeune fille, des femmes surtout qui sont en déficience intellectuelle ou autre, pour dire moi je veux peut-être avoir une personne qui s'occupe d'elle, mais c'est une femme, je veux plus que ce soit un homme. Pourquoi? Elle a vécu telle chose. Mais écoutez, nous on n'offre pas de service direct, donc on ne peut pas intervenir en tant qu'organisation. Donc, on fait quand même l'accompagnement et on voit jusqu'où ça peut aller. Mais, je veux dire, le système est fait de façon que la plainte n'arrive jamais au bon endroit. Mais même si elle arrive, souvent, il n'y a pas une solution qui est offerte vraiment aux personnes vivant ces situations-là. Donc, c'est un ensemble des violences qui se perpétuent, qui se multiplient. Puis les femmes les vivent sans pouvoir vraiment penser qu'un jour elles vont s'en sortir ou qu'elles peuvent déjà se plaindre et avoir du soutien.
Alors, elles vivent l'horreur, l'enfer, la violence, et vous le dites par le personnel médical, ce qui est odieux. Comment elles font, ces femmes? Quelles sont les ressources dédiées à ces femmes handicapées? Comment elles peuvent faire pour s'en sortir?
Ben justement, si on lui demande, elle peut déposer sa plainte,
Ouais.
mais sa plainte, est-ce qu'elle va arriver ou pas? Le lendemain, c'est la personne, ben, ah oui, tu es partie te plaindre, ben, tu vas voir maintenant comment ça va être, ça va être encore plus un enfer. Je peux vous donner un autre exemple simple, le transport adapté, des femmes qui prennent le taxi, le transport adapté, le matin, ils l'accompagnent à ses rendez-vous, puis le soir, ils viennent se présenter chez elles. Ils frappent
Quoi?
à sa porte et, oui,
Attendez, attendez,
c'est
attendez.
arrivé.
Attendez,
Oui,
là,
c'est
vous ne pouvez
arrivé.
pas dire quelque chose comme ça. Vous voulez
Ah, tout
dire que
à fait.
les gens du transport adapté viennent chercher la personne chez elle à son domicile et le soir, ils cognent pour avoir un petit rendez-vous galant, là.
Oui. Et
Eh
je ne
ben,
peux pas
disons.
dire que c'est tout le monde qui vit ça, mais c'est comme nous, on a travaillé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Dans la mire, où on a eu des focus group, on a discuté avec des femmes. C'est des histoires d'horreur qu'on entend. C'est pour
Ouais.
ça que je peux vous dire, je ne peux pas vous donner des chiffres clairs, vous dire. C'est pour ça qu'on a toujours demandé, on aimerait avoir une étude claire, évidente, pour parler pour tout le Québec, quelle est la situation réelle, pour pouvoir mettre en place des solutions qui peuvent répondre à ces besoins-là.
Alors
Mais c'est arrivé, là.
ça veut dire que pour ces femmes qui sont déjà, c'est pas évident la vie là, la
Non.
neige recommence, le froid, on a eu déjà ce sujet-là, des personnes handicapées qui ont vraiment de la difficulté à se déplacer, des fois les gens arrivent trois quarts d'heure en retard, et en plus elles doivent subir l'harcèlement sexuel de ceux qui les raccompagnent.
Ben, tout à fait. Imaginez une femme non-voyante qui se retrouve le matin, elle fait ses affaires, le soir, elle rentre chez elle, puis lui, il vient cogner à sa porte, puis elle va peut-être jamais le reconnaître. Elle est non-voyante, puis peut-être qu'elle va
Incroyable.
reconnaître par l'accent ou quelque chose, elle va, mais comment elle va faire? Puis elle est gênée, elle peut même pas se plaindre. Et souvent, ça arrive. Certaines, c'est des femmes immigrantes nouvellement arrivées aussi, hein. Elles ne connaissent pas le système, elles savent pas. Oui, tu peux te plaindre, oui, tu peux déposer, non, tu n'acceptes pas ça. Donc, elles font peur. Moi, je peux vous dire, là, dans les focus group, les femmes se parlent, puis, ah oui, je peux faire ça, ah oui, je vais. Donc, c'est à ce
Ils
moment-là
savent
qu'elles
pas.
comprennent
Ouais.
quels sont les recours. Et puis, comme je vous dis, le système n'est pas fait à ce que ces femmes-là puissent avoir le soutien nécessaire, puissent avoir l'accompagnement nécessaire rapidement, sans vraiment se sentir lésée. Vous savez, elle peut être agressée sexuellement, c'est un acte criminel aussi, mais cette femme-là, elle va déposer sa plainte, mais la suite, ça prend du temps, c'est pas évident. Donc, oui, nous, on a demandé que quand même qu'il y ait un processus clair, bien évident, pour venir soutenir ces femmes-là jusqu'au bout, du début à la fin. Moi, si je l'envoie à une maison d'hébergement, je suis pas sûre qu'elle va trouver une place. Je ne suis pas sûre que je pourrais trouver une place pour une femme qui est en fauteuil roulant à Montréal. Souvent, quoique les maisons d'hébergement travaillent fort, il y a de l'écoute, il y a quand même un partenariat qui se fait pour mieux, parce que maintenant on comprend mieux la situation, que oui, la violence conjugale peut exister et les autres violences aussi peuvent exister et que les femmes ont besoin, les femmes handicapées ont besoin de
Tout à
cette
fait.
aide-là, ont besoin de sortir de chez elles
Exact.
peut-être.
Ça va les isoler, là, d'avoir la peur les isole aussi, là.
Ben oui, c'est
Quand
ça.
il arrive des choses comme ça, ils veulent plus sortir, ils veulent plus appeler le bonhomme en question, là.
Ben tout
C'est
à fait. Puis
épouvantable, ça.
souvent,
Ouais.
souvent, ce qu'on fait, c'est peut-être qu'elles ne veulent pas aussi qu'il s'isole. Donc, c'est à l'homme de partir, c'est au conjoint ou le petit ami de partir. Mais
Exact.
là, allez lui dire, et puis
Merci
de
beaucoup.
voir. C'est pas vraiment évident. C'est
Merci,
vraiment pas
madame.
évident.
Le temps nous fait la guerre. Madame
Ben oui, je
Selma
comprends.
Coudry, au revoir. Merci, très intéressant.
Merci à vous. Merci, au
Au
revoir.
revoir.
Vous écoutez les questions de Sophie avec Sophie Stanquet.
Alors, la question aujourd'hui, la violence envers les femmes, où en sommes-nous? Vous nous avez écrit beaucoup, ça vous parle, tout comme à moi d'ailleurs. Aujourd'hui, ce sujet, c'est vraiment d'actualité. On aimerait ça que ça soit plus d'actualité, puis ça soit en arrière, mais ça a l'air qu'il y a des petits pas, puis c'est à dose homéopathique, puis il faut bouger, puis il faut pas arrêter de bouger, de dénoncer, de dire, de parler. Mais parler, c'est difficile, c'est extrêmement difficile parfois. Depuis le début de l'émission, nos intervenants et intervenantes nous disent la même chose, hein. C'est ça le problème. C'est dur de parler parce que parfois il y a la peur qui envahit. Alors, le numéro de téléphone, je vous avais dit que j'en parlerais, SOS Hébergement pour les femmes violentées. Je vais le donner tout au long de l'émission, 1-800-363-90-10. 1-800-363-90-10. Oui, un autre message sur Twitter, on a Nathalie Allary qui dit « La cybercriminalité et la misogynie, une fenêtre à observer, hausse de la cybercriminalité et d'y réagir, en parler, c'est changer les choses dans notre société. » Alors, notre prochaine invitée, c'est une sexologue. Elle s'appelle Michèle Saint-Amand. Bonjour, Madame Saint-Amand.
Bonjour.
Comment vous réagissez à tant de violences, les commentaires qu'on a depuis le début de l'émission, les gens nous parlent de la peur. En tant que sexologue, ça vous parle comment?
Ben, premièrement, je ne suis pas étonnée de ce que les gens disent parce qu'effectivement, même en 2014, il y a encore beaucoup de tabous, de préjugés entourant la violence faite aux femmes. Moi, comme sexologue, je travaille beaucoup avec les victimes d'agressions sexuelles. Oui. Qui fait partie des violences faites aux femmes. Mm-hmm. Sous toutes ses formes, ça va de l'inceste au viol, au harcèlement. Oui, c'est ça, il y a encore beaucoup de préjugés qui font effectivement que c'est difficile de dénoncer.
Mm-hmm.
Pour plusieurs raisons, la dame juste avant moi parlait du fait que la violence est souvent commise par des gens de l'entourage.
Ouais.
Donc, ce qui fait que la victime a d'autant plus de misère à dénoncer parce qu'il y a plusieurs peurs associées à ça. Donc, on parle d'autour de 70 à 85 % des cas d'agression sexuelle qui sont commises par quelqu'un qui est connu.
Mm-hmm.
Donc, membre de la famille, professeur, entraîneur, ami de la famille.
Proche, là. Ouais.
Donc, la victime porte un fardeau, en fait, qui... en théorie, ne devrait pas lui appartenir. Mais il peut y avoir ce souci-là de briser l'harmonie, de faire une espèce une vague, un impact majeur autour d'elle. Et c'est souvent le cas. Par contre, quand elle dévoile, le mot le dit, c'est qu'elle lève le voile sur un crime qui a été commis contre elle. Mm-hmm. Elle est la victime.
Mm-hmm.
Donc, ça a comme pas de bon sens qu'encore aujourd'hui, la victime porte ce fardeau-là et se sente coupable pour quelque chose qu'elle a vécu.
C'est ça, c'est comme la victime devient coupable, elle. C'est inverser les rôles complètement. C'est elle qui a subi et qui se sent coupable, finalement.
Exactement. Et il y a en fait une citation de Benoît Groulx, qui est une féministe marquante,
oui,
qui a dit, en fait, le viol reste le seul crime dont l'auteur se sent innocent et la victime honteuse. Et c'est pourtant vrai. Qu'est-ce qui fait que ça accroche encore et qu'on entend encore... Vous savez, quelqu'un qui dénonce va avoir peur de se faire poser la question... qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu portais? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Qu'est-ce que tu aurais dû faire?
C'est complètement, excusez-moi de dire ça, mais je vais le dire, là, c'est complètement imbécile de poser ces questions-là. La femme vient de se faire violer, puis on essaye de lui dire, ah ben comment t'étais habillée? Ah, c'est ta faute, t'étais habillée comme ça. C'est fou, ça.
Oui, et ce que ça fait, c'est que ça enlève la responsabilité de l'agresseur.
Mm-hmm.
Alors que moi, comme sexologue, quand j'accueille une victime, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on travaille à remettre la responsabilité à 100% à l'agresseur.
Mm.
Même s'il n'y a pas, comme dans la majorité des cas, il n'y a pas de violence physique. C'est-à-dire, il n'y a pas de traces physiques.
Mm.
Et c'est ce qui fait que, bon, ben les victimes peuvent banaliser ça. C'était pas si pire. Il y en a d'autres qui ont vécu pire et tout. Mais généralement, ça se passe dans le chantage, la manipulation, la violence psychologique. Mm. C'est tout un système, là. C'est pas un geste, en parenthèse, ponctuel.
Comment elles viennent, ces femmes qui ont été victimes de violences? Les femmes qui ont été violées, comment elles viennent à vous et comment elles se sentent? Elles sont, on va prendre le premier rendez-vous. Est-ce qu'il y a des mots qui sortent? Est-ce qu'elles arrivent à parler? C'est comment les premières rencontres?
Ben, en fait, si elles se trouvent devant moi, c'est qu'il y a une partie d'elles qui souhaite aller mieux, qui souhaite reprendre du pouvoir sur sa vie.
Mmh.
J'ai envie de dire que si la personne vient dans mon bureau, elle a déjà fait une partie du travail qui est d'être devant le fait qu'elle a été victime de cette violence-là.
Mm-hmm.
Et souvent, elles viennent à moi, en fait, par par exemple, une ligne d'écoute que je ne sais pas si vous avez donné la référence, mais je peux vous
donnez-moi
donner
ça,
le numéro
je vais
de téléphone.
Je vais le prendre tout de suite. Donnez-moi le numéro de téléphone. Je vais d'ailleurs le répéter aussi, puis on va demander à notre équipe de le mettre sur le site. Oui, le numéro de téléphone.
Parfait. Donc, c'est un numéro sans frais au niveau du Québec. Donc,
oui.
C'est le 1-888-933.
Oui.
9007.
Parfait. Alors, donc, elles arrivent à travers cette ligne d'écoute?
Possiblement. Vous
oui.
savez, une ligne d'écoute qui est anonyme, ça peut être le premier pas pour entamer un processus soit de dévoilement, de dénonciation ou de parcours personnel. C'est comme moins impliquant, moins confrontant. La personne ne se nomme pas nécessairement. Et bon, et ça peut être un premier lieu où est-ce que la personne va s'ouvrir et voir qu'elle est bien accueillie, qu'elle n'est pas jugée, et que c'est des personnes qui sont formées pour intervenir auprès des victimes d'agressions sexuelles. Il y en a d'autres qui peuvent passer par le CAVAC, par exemple,
oui,
qui est le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Par cette voie-là, en fait, ils peuvent aussi leur parler de l'IVAC. Là, je vous donne beaucoup de références.
Mais de toute façon, on a besoin de tout ça, là.
Oui. L'IVAC, c'est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas tout le monde qui a les sous pour aller consulter en privé.
Mm-hmm. Et je vais revenir à ma première question.
Oui.
Une fois qu'on a fait tout ce processus, elles vous disent quoi? Vous avez dit qu'elles ont fait un pas parce qu'elles viennent me voir. Mais physiquement, elles se sentent comment? Est-ce qu'elles peuvent avoir des relations sexuelles ou elles ont perdu espoir? Elles se sentent sales? Elles se sentent comment?
J'avais toutes les réponses. Il y a vraiment une variété de réactions. Chaque personne a une expérience bien particulière. Et beaucoup des personnes que je vois dans mon bureau ont été victimes d'une agression sexuelle il y a longtemps.
OK.
Souvent dans la famille, donc souvent de l'inceste, et c'est à l'âge adulte qu'elles viennent consulter pour divers problèmes. Il y en a qui, oui, vivent des problèmes au niveau de leur sexualité. Et moi, le travail que je fais avec elles, c'est qu'on a un bout de chemin à faire avant de travailler au niveau de la relation sexuelle comme telle avec le ou la partenaire.
Pour réparer, hein?
Oui, exactement. Donc, si la personne porte une honte, si elle son estime d'elle-même, elle est affectée, toute la question de l'image corporelle aussi peut être affectée. La question de confiance, il y a des gens aussi qui peuvent vivre une reviviscence du traumatisme lors de relations sexuelles. Donc, comme si le passé faisait partie du présent.
Mm-hmm.
Alors, il y a tout ça qu'on peut travailler ensemble et tout ça, c'est dans l'optique, dans le fond, de il y a un mot en anglais là, qui est difficilement traduit, on parle d'empowerment.
Mm-hmm.
Donc, que la personne vraiment se reprenne en charge sa vie, reprenne
ouais.
le contrôle, parce ouais. que lors d'une agression, ben c'est ça qui s'est passé, hein, quelqu'un a pris le contrôle sur sa vie à ce moment-là.
Ouais. Ouais. Alors, donc, on va donc répéter, vous avez un numéro de téléphone où on pourrait, où les victimes pourraient vous rejoindre, ça serait le numéro que vous m'avez donné tout à l'heure en première ligne, c'est ça, le 933?
Oui, en fait, ça, c'est la ressource régionale, provinciale, pardon, au niveau des agressions sexuelles. Donc, si les gens veulent trouver un CALAX,
oui.
un centre d'aide là dans leur région, c'est des services souvent gratuits ou vraiment à petit prix pour que ce soit accessible.
Mm-hmm.
Malheureusement, il y a souvent des listes d'attente parce que les ressources sont pas assez grandes pour le nombre, pour les besoins de la population. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment un numéro central où est-ce qu'on peut les diriger. Si, par exemple, elles ont eu une agression récente dans les 5 derniers jours, il y a des centres désignés reliés aux hôpitaux qui peuvent être donnés comme référence. Donc, je vous dirais que c'est vraiment une ressource complète par rapport aux agressions sexuelles.
Merci beaucoup, Michèle Saint-Amand.
Ça me fait plaisir.
Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.
Qu'en est-il des jeunes, de l'éducation, hein? Parce que là, on parle de ce qui a été fait, on parle du présent, mais l'éducation, c'est important. J'en ai parlé en introduction de l'émission. Il n'y a plus de cours, hein? Et si la seule référence qu'on a, c'est ce qui se passe sur le web, ben, sinon, c'est pas fort tout ça. Alors, pour nous parler de ce sujet, éducation sexuelle des jeunes, Richard Cloutier, il est psychologue, professeur émérite associé à l'école de psychologie de l'Université Laval. Bonjour, Monsieur Cloutier.
Bonjour, Madame Stanguet.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci.
Quand je dis que c'est pas fort, l'éducation sexuelle sur le web, êtes-vous de mon avis?
Ça dépend des documents qu'on ouvre.
Oui.
Il y a quand même des trucs intéressants sur la question, mais c'est pas nécessairement les fichiers qui ont le plus de popularité. Il y a, par exemple, des choses que le ministère de la Santé et Services sociaux met sur le web, mm-hmm. une collection de documents qui peuvent être intéressants.
Mm-hmm. Qu'en est-il des cours d'éducation sexuelle qu'on a retirés dans les écoles et qu'on se propose peut-être d'en faire un projet pilote? Pourquoi avoir retiré ça et quels seraient les bienfaits de les remettre sur les bancs de classe?
Je crois que c'est une très bonne question, la question pourquoi on a retiré ça. Mm-hmm. Je pense que c'est encore une fois une question d'argent, une question... Vous savez que l'espace de temps à l'école, ça coûte des sous. Hein? Oui. Si vous avez une grille scolaire qui est greffée d'un certain nombre d'heures pour une cause donnée, il y a un enjeu financier. Maintenant, je ne peux pas me prononcer sur la causalité complète de ça. Ça a été fait en 2005, on me dit. On avait éducation personnelle et sociale. On a tout enlevé d'un coup. Mm-hmm. Et on a recherché d'autres avenues. Il y a notamment une espèce de projet transversal qui voudrait confier à l'ensemble des professeurs d'une école cette responsabilité, d'aborder ça au moment où c'est pertinent, mais... Ce qu'on sait aussi, c'est que ces approches transversales-là, qui sont souvent une échappatoire hein, pour, mm-hmm. pour par rapport à l'enjeu coût, c'est pas facile. Ça prend un leadership. Et ce qu'on déplore maintenant, puis il y a eu une pétition hein, de Mme Tétrault, je crois, là, qui a relancé le débat, de façon pertinente d'ailleurs. Et je crois que la santé publique est aussi informée. Il y a des données qui montrent que sur deux plans strictement... risque santé, la chlamydia puis la gonorrhée chez les jeunes a connu une augmentation importante entre oui. 2005 et 2012. Oui. Donc, il y a des conséquences
tout à fait.
qu'on ne peut pas lier de façon causale directe, mais qui sont associées à cette période. Depuis 2005, ça s'est détérioré, ces indications-là. Et dans le contexte justement où il y a une importance de plus en plus grande des médias sociaux, d'Internet, on a le sentiment qu'il y a un leadership qui a été abandonné sur le plan de l'éducation des jeunes mm-hmm. pour faire face aux risques, sans démoniser constamment les médias, parce qu'il y a des côtés positifs, il y a quand même des risques. Et les jeunes, à l'adolescence notamment, doivent être en mesure d'être équipés, donc d'avoir les moyens pour se protéger et comprendre les enjeux.
Oui, parce que les médias ont leur rôle, mais il y a aussi l'État qui s'est un petit peu déresponsabilisé de cette question-là en se disant, ben voilà, on n'en est plus là, on voit tout sur Internet, pourquoi le faire? Et on voit les conséquences et on sait très bien que vous avez pris comme exemple les adolescents, mais c'est difficile de parler de sexualité quand on est parent d'un adolescent. En général, c'est à mon avis plus facile d'être à l'école, même si les gens rigolent un petit peu, qu'il y ait un professeur, mais avec un parent, tous les parents diront ça, que quand arrive l'adolescence, de parler de sexualité à son jeune ou à sa fille, c'est très difficile d'avoir une écoute.
Je crois que la famille a un rôle à jouer.
Oui.
Et je crois que souvent pendant l'enfance, les questions mm-hmm. Plus béaba, là,
oui.
Les questions d'ordre biologique, etc., peuvent être abordées pendant l'enfance et ça entre mm-hmm. dans les mœurs de façon très naturelle. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'école est un autre milieu que celui de la famille.
Oui.
Et vous soulignez la question de l'intimité. Les jeunes sont un peu intimidés de voir leurs parents décider qu'aujourd'hui, on va parler de sexualité.
C'est ça.
Puis d'ailleurs, les besoins sont bien loin de la façon de mettre un condom ou la façon dont l'abeille se fertilise. On parle d'amour, on parle de pression sociale, on parle d'effets à long terme des pratiques sexuelles, on parle des rapports hommes-femmes. Et ça, la famille est placée pour en parler, oui, et il y a les modèles principaux s'y trouvent d'ailleurs, en matière de rapport homme-femme notamment, mais le monde social que l'école représente est peut-être beaucoup mieux équipé pour parler des conventions, parler de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Il y a une dimension plus large à l'école. Il y a aussi la possibilité d'avoir des témoignages, d'avoir des échanges, en l'absence justement du regard normatif des parents. Et l'école est un outil extrêmement puissant pour engager des réflexions au niveau des jeunes potentiel que la famille n'a pas. La famille a d'autres capacités, mais ce n'est pas un milieu social du même ordre, la
tout
famille.
Tout à fait.
Notamment dans un contexte où la fratrie a fondu au cours des années. Mm-hmm. Donc l'école a un rôle, oui. C'est une société, l'école. Et l'enfant à l'école, l'adolescent, il est appréhendé comme une personne indépendante. Ce n'est pas un sujet de contrôle de la même façon que dans la famille. Mm-hmm. Vous voyez? Et à l'école, c'est l'enfant. Et c'est l'adolescent lui-même qu'on interpelle et qui peut s'exprimer. Mm-hmm. Et bon, alors toutes les questions de pression sociale, les questions de popularité, de beauté et leur impact sur la désirabilité des gens, et toutes ces questions-là peuvent être abordées, je pense, au niveau secondaire, par exemple, de façon incroyablement intéressante à l'école.
Tout à fait. En terminant, est-ce qu'on pourrait contrer et prévenir la violence sexuelle avec plus d'éducation à l'école, d'après vous, M. Cloutier?
Je crois que c'est le levier le plus puissant. Ouais. Pour que de la même façon qu'on a fait des progrès en matière de sexisme, en matière d'homophobie, en matière de racisme, on peut, au niveau de la sexualité, définir des standards et mettre les jeunes dans le coup de cette définition-là. On ne peut pas être un objet sexuel. Et toute la question du rapport de genre, homme-femme, garçon-fille, le rôle de la porno, l'image sociale des femmes en porno, mais aussi des hommes dans certains types de porno sexuels. Vous voyez, toutes ces questions-là, il faut, pour être autonome, pouvoir les contrôler, pouvoir les comprendre.
Les
et
aborder.
Je crois que l'école a un rôle incroyablement important.
Merci beaucoup, Richard Cloutier.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Alors, je vous ai dit tout au long de l'émission, je vous répéterai les numéros de téléphone pour trouver un hébergement pour la violence faite aux femmes. Vous appelez le 1-800-363-90-10. En première ligne, Vous avez été victime, vous avez un téléphone à faire, on vient tout juste de nous le donner, 1-888-933-90-07, 1-888, on va les mettre d'ailleurs sur notre site internet, 933-90-07. Notre coup de chapeau pour cette semaine, c'est Erika Diaz, donc elle est intervenante psychosociale pour Trêve, pour elle. Bonjour Madame Diaz.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien, merci vous-même.
Oui, parlez-moi, parlez-nous de votre organisme. Qu'est-ce que fait votre organisme?
Oui, notre organisme, il travaille depuis 30 ans auprès des femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel.
Mmh.
Et ben, notre but, c'est de un jour enrager les agressions à caractère sexuel.
Mmh.
Donc voilà, comment on cherche à le faire, c'est en faisant la sensibilisation auprès du milieu, en travaillant en collaboration avec des partenaires, avec les milieux communautaires, les milieux gouvernementaux, des écoles, bref, toutes les institutions et organismes qui nous ouvrent les portes pour pouvoir parler, démystifier les agressions à caractère sexuel.
Alors, vous êtes aussi dans le prévenir, guérir est là, mais surtout prévenir, vous allez, est-ce que vous faites des conférences, est-ce que vous allez dans les écoles, comment ça fonctionne?
Et oui, oui, il y a des écoles avec lesquelles, les écoles secondaires surtout, avec lesquelles nous faisons, nous avons un temps de collaboration, si on veut. Donc, nous faisons un programme qu'on appelle JAVIS, Jeunes en action contre la violence sexuelle. Puis, c'est un de nos stagiaires en sexologie qui monte ce programme-là pour à chaque année. Donc, des programmes différents à chaque année avec des thèmes différents à chaque année. Mais sinon, effectivement, nous essayons de répondre le plus souvent à des demandes de la part des divers organismes, soit effectivement des universités, des programmes spécifiques comme les étudiants en réhabilitation périnéale, par exemple, mm-hmm. qui veulent savoir plus aussi comment réagir, comment bien agir auprès des personnes, des femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel.
Alors, vous savez que samedi, on a, j'aime pas le mot célébrer, mais on a souligné
mm-hmm.
Les 25 ans de Polytechnique. Qu'est-ce que ça vous fait quand il y a cette commémoration? Qu'est-ce que ça fait aux femmes? Qu'est-ce que les jeunes vous disent, celles qui n'ont pas vécu ça, cette journée-là, qui n'ont pas vu, qui n'étaient pas au monde? Comment elles réagissent?
Bon, mais nous ne sommes pas nécessairement très tout le temps proches des jeunes, mais c'est sûr que oui, nous avons des militantes, comme on les appelle, c'est des bénévoles, des jeunes bénévoles qui s'impliquent avec nous dans la cause, qui nous aident vraiment beaucoup. Puis la plupart d'entre elles sont solidaires à faire des changements
mm-hmm.
pour que la situation des femmes change. Pour nous, en fait, les agressions à caractère sexuel, c'est un problème de société.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça, c'est pas un problème isolé, comme ça n'avait pas été non plus les drames de la Polytechnique,
mm-hmm.
et comme ça n'allait pas encore. Même pour les jeunes générations, je crois qu'avec toute la vague des dénonciations d'agressions sexuelles, justement, ça vient chercher cette solidarité-là.
Oui. Vous la sentez? Elle est là, cette solidarité, une solidarité qui va au-delà des mots?
Je crois que oui.
Ouais.
Oui, je crois que oui. C'est justement ça qui a permis, qui est très pour elle. Qui ont perduré dans le temps depuis 30 ans.
Mm-hmm.
C'est vraiment grâce à nos militantes que nous pouvons offrir, continuer à offrir des services auprès des femmes et que nous pouvons continuer aussi à faire la sensibilisation.
Est-ce que depuis 30 ans, vous trouvez que les femmes parlent plus qu'avant?
Oui, définitivement. Définitivement, mais c'est pas... On les voit aussi dans le temps, c'est pas non plus des luttes déjà acquises,
mm-hmm.
c'est des choses vraiment qu'on doit continuer à faire. L'hypersexualisation est tellement présente maintenant chez les jeunes filles, les jeunes en général. On reçoit, disons, qu'on fait face à des défis différentes, mais encore là.
Oui, c'est une autre forme de violence, mais la violence est toujours là.
Effectivement. Donc, pour nous, l'égalité entre femmes et hommes, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, malheureusement. Mais bon.
Mais vous êtes là.
Nous sommes là, effectivement.
Merci beaucoup, Erika Diaz, donc intervenante psychosociale pour Trêve pour elle. Merci.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Alors, je crois qu'on a bien répondu à la question aujourd'hui, la violence envers les femmes, où en sommes-nous avec tous nos spécialistes? Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir écrit, d'avoir été à l'écoute. Merci à mon équipe, Christiane Campagna à la recherche. La réalisation est signée Jean-Sébastien Laliberté et Claudia Benoît, qui est là pour prendre tous vos courriels, tous sur les réseaux sociaux. C'est Sophie Stanquet qui vous parle. On se retrouve la semaine prochaine et prenez soin de vous, mesdames, messieurs. Bye bye!